Sous le règne de la finance, des processus de compétition semblables à celui-ci se sont répandus à tous les niveaux des entreprises privées, mais aussi dans les universités ou les organisations de bienfaisance, qui passaient auparavant pour l'exacte antithèse du monde des affaires. Sans que cela atteigne toujours les proportions constatées à Hollywood, secteur intégralement bullshitisé, la féodalité managériale garantit partout que des milliers d'heures d'efforts créatifs seront gaspillés pour rien, littéralement. Prenez le domaine de la recherche scientifique, ou, encore une fois, celui de l'enseignement supérieur. Si un organisme subventionne 10% des projets qui lui sont soumis, cela veut dire que 90% du travail fourni pour monter les dossiers de demande se révèlent aussi vains que le temps passé par Apollonia à fabriquer la vidéo promotionnelle de « Trop gros pour baiser », cette émission qui n'a aucune chance de voir le jour. Encore plus vain, en réalité, parce qu'il n'offre même pas l'occasion d'une bonne rigolade quand on y repense après coup. C'est juste un gâchis extraordinaire d'énergie créative. Une étude récente laisse entrevoir l'ampleur du désastre. Les universités européennes auraient dépensé environ 1,4 milliard d'euros par an à préparer des demandes de subventions qui ont été rejetées, des sommes qui, évidemment, auraient pu servir à financer la recherche. Dans un article publié en 2012, j'ai avancé l'idée suivante. La stagnation technologique de ces dernières décennies aurait pour cause principale le temps considérable que passent désormais les scientifiques à rivaliser entre eux pour convaincre des donateurs potentiels qu'ils savent déjà ce qu'ils vont découvrir. Et c'est pareil dans le privé. Ces réunions interminables lors desquelles des coordinateurs de la dynamique de marque et des responsables de la vision prospective, titre produit par le générateur aléatoire d'intitulés de postes à la con sur le site de Bullshit Job, déploient leur présentation PowerPoint, leur carte mentale et leur rapport plein de jolis graphiques sur papier glacé ne sont rien d'autre qu'une perte de temps au service d'exercices de promotion interne. Nous avons vu comment, à eux seuls, tous ces rituels génèrent quantité de jobs à la con auxiliaires. Par exemple, les personnes embauchées pour préparer, corriger et reproduire ces présentations et ces rapports, ou pour réaliser les illustrations qui les agrémentent. Il me semble qu'il s'agit d'un trait caractéristique de la féodalité managériale. Il fut un temps où les universités, entreprises, studios de cinéma et autres étaient régis par des chaînes de commandement relativement simples et des réseaux de parrainage informels. Aujourd'hui, leur monde est rempli de demandes de financement, de documents de vision stratégique, d'équipes de développement qui pondent des argumentaires. Tout cela justifie l'échafaudage de niveaux hiérarchiques toujours plus creux, occupés par des hommes et des femmes aux titres compliqués qui, s'ils parlent couramment le jargon « corporate », n'ont pas la moindre expérience directe des tâches qu'ils sont censés superviser, ou alors se sont donné beaucoup de mal pour l'oublier. Bref retour sur la question des trois niveaux de causalité. Il est temps de revenir aux remarques d'Obama sur la réforme du système de soins et d'assembler les pièces du puzzle. Le processus, à l'origine des millions d'emplois qu'Obama était si soucieux de préserver, est en tout point identique à ceux que nous venons de décrire. Des couches et des couches de postes administratifs et managériaux superflus qui s'accumulent à l'infini, conséquence d'une application agressive des principes de marché. Ici, à l'industrie de la santé. Le système de soins américain a toujours été essentiellement privé, fait quasi unique parmi les pays riches. Cela ne l'empêche pas, encore plus depuis Obama, de présenter des ressemblances frappantes avec ce que l'on voit se profiler au Canada ou en Europe du fait de la privatisation partielle des systèmes de santé nationaux. La même intrication du public et du privé, de l'économique et du politique, les mêmes actions gouvernementales visant à garantir les profits privés, chaque fois en s'assurant, de manière tout à fait consciente dans le cas américain, qu'au moins une part de ces profits servent à créer des emplois de bureaux bien payés et prestigieux qui ne sont rien d'autre que des jobs à la con. En début de chapitre, j'ai évoqué les différents niveaux de causalité. Les raisons pour lesquelles des gens créent ou acceptent des jobs à la con n'ont rien à voir avec celles qui expliquent la prolifération de ces jobs à certaines époques et à certains endroits plutôt qu'à d'autres. Par ailleurs, les forces structurelles profondes qui ont impulsé ces changements historiques doivent être distinguées des facteurs culturels et politiques qui influent sur la façon dont la population et les dirigeants y réagissent. Jusqu'à maintenant, nous nous sommes concentrés sur les forces structurelles. Les jobs à la con ne datent pas d'hier. C'est un fait incontestable. Cependant, ils ont connu ces dernières années une multiplication effarante, le phénomène s'accompagnant d'une bullshitisation croissante des vrais emplois. Et bien qu'une fausse idée reçue y voie une conséquence du gonflement du secteur des services, il semblerait que cette prolifération soit plutôt liée à l'essor de la finance. Le capitalisme de la grande entreprise, cette forme de capitalisme dans laquelle l'essentiel de la production est le fait de grosses compagnies organisées sur un mode bureaucratique, est apparu à la fin du XIXe siècle en Amérique et en Allemagne. Pendant la majeure partie du XXe siècle, les grandes sociétés industrielles sont restées largement indépendantes des intérêts de ce qu'on appelait alors la haute finance, quand elle n'y était pas franchement hostile. Les administrateurs d'une entreprise, que celle-ci fabrique des céréales de petit-déjeuner ou des machines agricoles, se sentaient bien plus proches des ouvriers travaillant sur leur chaîne de production que des spéculateurs et des investisseurs, ce que reflétaient d'ailleurs les organigrammes internes. La fusion entre le secteur de la finance et les classes dirigeantes, c'est-à-dire les échelons supérieurs des bureaucraties d'entreprise, ne s'est véritablement produite que dans les années 1970. Les PDG ont commencé à se rémunérer en stock option, à passer d'une boîte à l'autre dans des secteurs d'activité n'ayant aucun rapport, à se vanter du nombre de salariés qu'ils avaient réussi à licencier. Le cercle vicieux était enclenché. Puisque les travailleurs ne s'estimaient plus liés à leur entreprise par la loyauté, étant donné que celle-ci ne leur en témoignait aucune, il a fallu se mettre à les contrôler, à les administrer et à les surveiller de plus en plus près. Ce réalignement a aussi créé des tendances plus profondes dont les effets se sont bientôt fait sentir presque partout, infléchissant jusqu'aux opinions politiques ou aux orientations de la recherche technologique. Juste un exemple, très révélateur. Dans les années 1970, le secteur bancaire était le seul à s'enthousiasmer pour l'informatisation. Apparemment, il y a bien une relation étroite entre la financiarisation de l'économie, l'épanouissement des industries de l'information et la multiplication des jobs à la con. Ces évolutions ont fait plus que simplement recalibrer ou réajuster des formes existantes de capitalisme. Elles ont marqué une rupture radicale. Dans la mesure où l'existence des jobs à la con paraît défier la logique du capitalisme, il y a peut-être une explication élémentaire à leur prolifération. Le système actuel n'est pas le capitalisme. En tout cas, il ne s'apparente à aucun des types de capitalisme décrits dans les œuvres d'Adam Smith, de Karl Marx, de Ludwig von Mises ou de Milton Friedman. C'est un système d'extraction de rente dont la logique interne, les lois fondamentales, pour parler comme les marxistes, n'a plus grand-chose à voir avec le capitalisme, et où les impératifs économiques et politiques sont largement confondus. Sur bien des plans, il se rapproche de la féodalité médiévale classique, notamment par sa tendance à engendrer des hiérarchies interminables de seigneurs, vassaux et domestiques. En revanche, d'autres aspects l'en éloignent résolument, en particulier sa philosophie managérialiste. De plus, au lieu de remplacer totalement le capitalisme industriel à l'ancienne, il s'y superpose, et ses milliers de points de contact donnent naissance à autant de versions différentes. Au milieu d'une telle confusion, il n'est guère surprenant que les individus évoluant au cœur même du système ne sachent pas par quelle bout le prendre. Voilà pour le niveau structurel. Les deux chapitres suivants seront consacrés aux facteurs culturels et politiques. Sur ce terrain, il serait naturellement vain de prétendre à la neutralité. Se demander pourquoi l'existence d'emplois inutiles n'est pas considérée comme un problème social majeur, c'est déjà suggérer que cela devrait être le cas. De toute évidence, mon article original a agi comme une sorte de catalyseur. S'emparant d'un sentiment qui, même s'il était largement partagé, n'avait jusqu'alors jamais été relayé par une voix non autorisée, le sentiment qu'il y a un truc qui cloche sérieusement dans notre organisation sociale, il a proposé un cadre pour penser ces questions sous l'angle politique, au sens large. Je vais maintenant prolonger ces réflexions en m'intéressant aux conséquences politiques de la division du travail actuel et à nos possibles moyens d'action.